Bonjour et merci d'être fidèle à Question Politique tous les dimanches. Dernier rendez-vous que vous donnent France Inter, le journal Le Monde et France Info cette saison. Un mini-sommet européen doit se tenir dans 3 heures à Bruxelles. Vous l'entendiez dans le flash de Dominique Delaroa. Sommet sur la crise migratoire et des divisions profondes entre les États de l'Union. D'autres qui ont tout simplement boycotté le sommet. L'Europe connaît un moment de vérité. La phrase est d'Emmanuel Macron. Elle était sur Twitter mardi dernier. Et si l'on prend le président de la République au sérieux, un sentiment de gravité et d'urgence s'impose en Europe. Pour en parler, notre invitée jusqu'à 13h, la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Nous attendons vos questions et vos commentaires sur l'appli France Inter ou sur Twitter. Le mot-clé Question Paul.
France Inter. Question politique. Ali Badou.
L'équipe de questions politiques ce dimanche, Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Bonjour à tous.
Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali.
Et Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à toutes et à tous.
Bravo. C'est très macronien.
Elle se distingue tout le temps celle-ci. Hein.
Avant d'accueillir Nathalie Loiseau, le tour de table traditionnel pour commencer. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? On démarre avec vous Nathalie.
Écoutez, jamais on a autant besoin d'Europe, et on va le voir pendant toute cette émission, et jamais on a eu l'impression que les partis politiques se refilaient la tête de liste comme une espèce de mauvais mistigris, que personne ne voulait y aller. Alors il y a toujours des bonnes raisons. Laurent Wauquiez, c'est probablement pour faire monter une jeune génération comme Monsieur Leonetti. Jean-Luc Mélenchon, des nouvelles générations également. Marine Le Pen, bref, on a l'impression qu'ils sont un, divisés sur ce qu'on va défendre, deux, aucune envie d'avoir de prendre une tôle pour parler vulgairement, et que leur magnanimité à laisser monter une nouvelle génération va soudainement s'éclipser au moment des présidentielles.
Des bref, européennes.
Non, aux présidentielles, ça les intéressera de nouveau.
D'accord,
et aux européennes, là, ils laissent penser une nouvelle génération. Donc, un, dans le temps, on avait les européennes comme recasage des députés battus aux élections, c'était déjà pas terrible. Alors, je voulais juste vous dire une chose, si on ferme les yeux, on vient 40 ans en arrière, les têtes de liste, c'est qui? C'est Giscard, c'est Mitterrand, c'est Georges Marchais, c'est Giscard, c'était quand même autre chose, on aurait peut-être besoin d'avoir cette nouvelle incarnation plutôt que d'avoir tous les gens qui se refilent la tête de liste et qu'ils passent à leur voisin, comme on disait dans la cour de récré, à ton voisin, zinzin.
Ça ne vous tente pas? La tête de liste aux européennes? Aucune d'entre vous. Et est-ce que ça tente Nathalie Loiseau?
Pas vraiment.
On lui posera la question. Françoise.
Dans le prolongement de ce que dit Nathalie, c'est la crise de la droite. Cette crise qui a encore éclaté la semaine dernière lorsque Laurent Wauquiez, le numéro 1 du parti Les Républicains, a limogé Virginie Calmel, son numéro 2, au motif qu'elle était déloyale, qu'elle sabotait la ligne sur laquelle il s'était fait élire, moyennant quoi le patron du parti ne parvient pas à sortir du piège dans lequel il s'est enfermé depuis décembre, date à laquelle il a pris le parti. Les militants l'adorent, ils adhèrent plein pot à sa stratégie qui consiste à tenter de récupérer l'électorat parti du côté du FN avec des tracts du genre pour que la France reste la France. Il existe bel et bien une secte Wauquiez, enamourée, radicalisée. Le problème, c'est que les Français, eux, ne suivent pas. Ils continuent de juger Laurent Wauquiez en dessous de la main. Une majorité, 57%, a désapprouvé son geste d'autorité, selon un sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro. Et c'est bien là le sujet, Laurent Wauquiez n'élargit pas. Il rétrécit ce qu'il reste de la droite républicaine au moment même où Emmanuel Macron continue de chercher à rallier sous sa bannière son aile la plus libérale. Et puis, on a l'impression qu'il ne travaille pas. À preuve, ce débat sur la hausse du SMIC qui a tout d'un coup agité le parti. Pour récupérer l'électorat populaire, Guillaume Pelletier, vice-président du parti, propose de l'augmenter de 10 à 20%. Valérie Pécresse juge la proposition intéressante. Laurent Wauquiez est resté sans voix. Il y a vraiment du flottement dans l'air.
Merci. Karine.
Alors moi, ce qui m'a frappé cette semaine, c'est toute cette succession de petites affaires, de petites polémiques autour du président Macron. On entend parler de cette piscine de Brégançon. On a entendu parler aussi de cette vaisselle, 500 pièces pour l'Élysée. On a entendu parler d'un voyage en Falcon pour parcourir seulement 110 kilomètres. Alors on retrouve dans tout cela, je trouve, du Nicolas Sarkozy, on retrouve du François Fillon, les Falcons notamment, il faisait souvent, paraît-il, Paris, Le Mans, enfin en tout cas son fief de la Sarthe. En fait, ça donne l'impression décidément que quand on est tout en haut du pouvoir, eh bien personne n'échappe à un moment donné, et voire même très vite, à cette déconnexion. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'Emmanuel Macron avait promis aux Français d'avoir une autre conception des responsabilités, d'avoir une autre conception du pouvoir politique, d'avoir une autre conception de la politique. Ce qu'on avait appelé, nous, le nouveau monde, par opposition à cet ancien monde qu'on connaissait bien et qui, effectivement, pouvait faire ce genre de choses. Alors, pour l'instant, ça fait assez peu de dégâts auprès de l'opinion publique. Ça n'imprime pas comme on dit dans le jargon. Emmanuel Macron continue à être perçu comme quelqu'un qui tient ses promesses, comme quelqu'un qui va vraiment essayer de transformer la société. Seulement, concrètement, les résultats de sa politique ne se voient toujours pas. Et si ces polémiques devaient se poursuivre, eh bien cela finirait sans doute par susciter quelques doutes sur l'efficacité de ces réformes.
Merci Karine. Il est 12h10 alors que l'Europe et la crise des migrants sont au cœur de l'actualité, que l'Europe est au pied du mur, pour reprendre un titre du journal du dimanche aujourd'hui. Un sommet européen va se tenir à Bruxelles dans quelques heures sur la question migratoire. Notre invitée est la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, qui s'installe dans le studio 221 de la Maison de la Radio. Bonjour et bienvenue Madame la Ministre.
Bonjour Ali Badou.
Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à l'effondrement de l'Europe sous nos yeux ?
Non. On est dans un moment de crise politique sérieuse qu'il faut évidemment traiter et surmonter. Ça n'est pas la première fois. On peut même dire, certains le disent, que l'Europe a toujours progressé à cause des crises et à travers les crises. On est dans un moment particulier où certains utilisent le défi migratoire pour créer une crise politique.
Certains ?
Lesquels ?
Les populistes. Ceux qui se servent de difficultés, non pas pour les résoudre, mais plutôt pour les envenimer, pour faire peur, dans une optique purement électoraliste. Ce qu'on verra tout à l'heure à partir du mini-sommet de Bruxelles, et plus clairement encore à la fin de la semaine avec le Conseil européen, c'est s'ils sont là aussi pour trouver des solutions.
Et il est raisonnable de les laisser à l'intérieur de l'Union européenne ? C'est certain ? C'est populiste, comme vous disiez, il faut les garder ou pas ?
Bah, ils sont issus de scrutins démocratiques.
Alors nommons-les déjà pour que les choses soient très claires. Oui. Il y a déjà le groupe de Visegrad, je crois qu'on appelle comme ça ce groupe qui réunit la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne, qui sont sur une ligne très dure sur les migrations.
Qui disent zéro migrant.
Est-ce que vous, qu'ils boycottent le mini-sommet d'aujourd'hui à Bruxelles, est-ce que vous mettez aussi dans le même sac l'Italie, par exemple ?
Alors, il y a des ministres italiens qui sont clairement populistes.
Et le gouvernement est populiste.
Ce qu'on entend,
il y a des nuances.
On rajoute à la liste l'Italie, l'Autriche.
C'est plus compliqué que ça. Et vous avez un Premier ministre conservateur et vous avez certains ministres d'extrême droite. J'en viens, j'y ai passé une journée il y a deux jours. Le Premier ministre, le chancelier Kurz, proteste d'une conviction pro-européenne. Prenons-le au mot, jugeons-le sur les actes.
Mais ce que vous décrivez, c'est qu'au fond, ils progressent partout, à l'Est, ils progressent en Autriche, ils progressent à l'intérieur même de l'Allemagne. Est-ce que ce n'est pas le constat d'échec des antipopulistes, en fait ?
Nathalie Loiseau.
L'élection d'Emmanuel Macron l'année dernière a prouvé aussi le contraire. C'est-à-dire que quand les Français ont eu un choix clair entre une offre progressiste, renouvelée, qui était celle d'Emmanuel Macron, et une candidate, notamment anti-européenne, Marine Le Pen, les Français ont choisi.
Ça fait figure d'exception.
Mais entre-temps, il y a eu l'AFD en Allemagne et l'extrême droite qui a fait une percée, il y a eu l'Italie.
C'est vrai, ce qu'on constate partout, et moi je voyage en Europe tout le temps, toutes les semaines, c'est ce souhait de renouvellement de la classe politique. Les partis traditionnels sont essoufflés, sont parfois en lambeaux, ils ont souvent gouverné longtemps. Les citoyens européens, mais pas seulement en Europe, veulent des nouveaux visages, veulent une nouvelle énergie. Il faut que ces nouveaux visages, cette nouvelle énergie, puissent incarner les valeurs démocratiques, le progressisme.
Nathalie Sinclair.
Vous avez parlé tout à l'heure d'une utilisation politique. Est-ce à dire que vous considérez que finalement la crise des migrants n'est pas aussi grave que ce qu'on peut voir à la télévision ? Est-ce que finalement, puisque le solde aujourd'hui est moins important qu'en 2015, est-ce que vous considérez que c'est de l'instrumentalisation ou en gros, il y a quand même une espèce d'inquiétude généralisée dans les populations ?
Il y a un défi migratoire depuis 2015. Mais au moment où ces populistes dont je parlais agitent le chiffon rouge, c'est un moment où effectivement on a divisé par 10 le nombre d'arrivées sur les côtes et sur le sol européen. On n'est plus au pic de la crise migratoire. Moi, ce que je constate et ce que j'analyse, c'est qu'il y a à la fois une réponse émotionnelle, légitime. Lorsque l'on voit les passagers d'un bateau en perdition, malade, inquiet, on a tous une émotion forte, elle est légitime. Et puis il y a deux types d'exploitation.
Et ça ne veut pas dire qu'on les accueille, puisque si vous pensez à l'Aquarius,
et d'ailleurs, Emmanuel Macron et Édouard Philippe disent qu'il ne faut pas laisser se dicter ses réactions par l'émotion.
Je termine. Il y a deux types d'exploitation. Une exploitation qui est celle des passeurs, qui nous observent, qui veulent voir comment maximiser leurs profits en amenant des migrants en Europe, et puis l'exploitation politicienne de ceux qui veulent agiter la peur. S'agissant de l'Aquarius, effectivement, j'ai entendu ce que disait Jacques Toubon, le défenseur des droits.
Il faut accueillir d'abord, a-t-il dit.
Oui, c'est ce que nous avons dit aux Italiens, c'est qu'il fallait accueillir d'abord
oui,
et analyser
c'est
ensuite.
C'est chez les autres.
Réponse
on
pas d'urgence, réponse humanitaire.
Il y a des règles.
C'était à nous tendre la main, oui ou non. Il a raison de dire ça.
Il y a des
pas,
règles dans le droit de la mer, qui est que quand un bateau est en difficulté, il débarque ses passagers dans le port sûr le plus proche. Les ports sûrs les plus proches, quand on vient de Libye, c'est l'Italie. C'était à l'Italie d'accueillir ce bateau.
Donc ça veut dire que c'est toujours
l'Italie est allée à l'encontre
de recevoir les migrants, oui, puisqu'ils arrivent essentiellement, enfin, en tout cas pour beaucoup, de Libye. Donc ça veut
et
dire
l'histoire
que
est en train de se répéter, juste pour que nos auditeurs en aient conscience. L'histoire se répète en ce moment même en Méditerranée avec 230 migrants qui sont bloqués en mer sur un navire allemand et un navire humanitaire, le Lifeline. Et là aussi, ils ne sont pas accueillis ni par Malte. Les Italiens disent qu'ils n'en veulent pas. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, est en train de tenir sa promesse. Aucune ONG humanitaire ne doit plus débarquer de rescapés en Italie.
Et pendant ce temps-là, vous en avez qui arrivent en Espagne, vous en avez qui arrivent en Grèce.
Et que fait
l'Espagne
la France
et la Grèce prennent leurs responsabilités. La France, elle accueille depuis le début de cette année plus de demandeurs d'asile que l'Italie. La France, l'année dernière, elle a eu 100 000 demandes d'asile. Et depuis le début de cette année, nous en sommes à 50 000, 57 000 même, pour être précis, là où l'Italie en est à 30 000. La France, à Valence, pour les passagers de l'Aquarius, a envoyé des officiers de protection de l'OFPRA. Et nous avons dit que nous prendrions en France les personnes en besoin manifeste de protection, c'est-à-dire des gens qui ne détournent pas la procédure de demande d'asile et qui souhaiteraient venir en France.
Est-ce que Nathalie, vous considérez que la distinction entre migrants économiques et demandeurs d'asile est valide? C'est-à-dire que quand on voit les bateaux, on a l'impression effectivement qu'il y a un mélange et vous serez intraitable. C'est uniquement demandeurs d'asile, première chose. Et deuxièmement, c'est quoi le taux dans ces bateaux de demandeurs d'asile par rapport aux migrants économiques?
Il ne s'agit pas d'être intraitable, il s'agit de respecter le droit et de respecter la loi. Nulle part au monde, vous n'entrez dans un pays simplement parce que vous l'avez décidé. Vous entrez parce que vous êtes dans des conditions légales, sauf si vous êtes potentiellement un réfugié politique, si vous fuyez une zone de guerre, auquel cas les conventions de Genève s'appliquent et nous sommes extraordinairement attachés à les appliquer et à les appliquer
c'est
mieux
quoi,
que par le passé.
Le taux dans ces fameux bateaux, quel est le taux de...
Ça dépend évidemment, mais la plupart du temps, il y a à peu près 10% de véritables demandeurs d'asile et il y a un détournement par les trafiquants, par les passeurs de la procédure d'asile, c'est-à-dire que on fait miroiter à des migrants illégaux, à des migrants économiques, la possibilité de demander l'asile dans les pays européens, alors qu'in fine, ils ne l'obtiendront pas, cet asile.
Et les ONG ont été mises en cause à Malte, en Italie, en considérant qu'elles jouaient un double jeu ou un trouble jeu. Est-ce que vous considérez aussi que certaines ONG, finalement, sont tellement favorables à ces migrations qu'elles vont au-delà de leur rôle?
Nathalie Loiseau.
Les ONG sauvent des vies, les ONG s'occupent de gens en perdition. La vraie question, c'est de lutter contre les passeurs. C'est ce que nous avons commencé à faire, c'est ce qui avait été très tardif. Depuis une dizaine de jours au Conseil de sécurité, on a commencé à lister individuellement des passeurs qui vont faire l'objet de sanctions individuelles en Libye. Et ce sujet, cette coopération, une fois de plus européenne, il n'y a pas d'autre réponse qu'européenne, pour mettre à bas ces régimes, ces trafics qui sont parmi les plus lucratifs au monde. Aujourd'hui, vous gagnez plus d'argent en trafiquant des êtres humains qu'en trafiquant de la drogue. Il faut absolument mettre fin à ces réseaux-là.
Mais pour mettre un
Karine Bécart puis Françoise Fraisseuse.
Pardonne-moi Françoise. Pour mettre un terme à ce sujet sur l'Aquarius, donc de votre part, si je comprends bien, de la part du gouvernement, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'erreur selon vous qui a été commise, malgré finalement les états d'âme qu'on a pu clairement entendre, nous, journalistes politiques, autour de votre majorité, qui vraiment s'est interrogée, et vous avez perdu pendant quelques heures peut-être une partie de votre majorité. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la manière dont les choses se sont déroulées.
Nathalie Loiseau.
Les mêmes avec qui j'ai beaucoup parlé, avec qui nous avons beaucoup parlé, ne sont encore moins d'accord avec le fait que M. Salvini ait décidé de ne pas remplir ses obligations au titre du droit international et du droit de la mer.
Est-ce que ce ne sont pas tout simplement les sondages, pour le dire très clairement et vraiment, soyez honnête avec nous, Madame la Ministre, mais est-ce que les sondages n'ont pas dicté la nouvelle politique migratoire, celle qui est appliquée par votre gouvernement? Quand on regarde ce sondage de l'IFOP qui dit que 67% des Français considèrent que l'Aquarius ne devait pas être accueilli par notre pays, ben voilà, les sondages ont dicté la politique contre le devoir d'accueillir ou le devoir de solidarité envers des personnes qui étaient abandonnées au large.
Là encore, le devoir, c'était l'Italie. Il y a eu une réponse espagnole. Qu'est-ce qu'on allait faire ? La course aux bonnes consciences et dire non, pas l'Espagne, plutôt la France ? Ce n'est pas le sujet. On a tout de suite appelé les autorités espagnoles en leur disant, si vous prenez l'Aquarius dans le port de Valence, nous vous envoyons de l'aide et nous prendrons des demandeurs d'asile. C'est ce que nous proposons pour la suite. C'est la proposition que nous avons faite conjointement avec le président du gouvernement espagnol hier à Paris. C'est de faire en sorte que au moment où ces bateaux débarquent en Italie, il y a une présence européenne beaucoup plus forte, beaucoup plus massive, beaucoup plus efficace pour accueillir, pour supporter le poids financier de cet accueil, mais aussi pour interviewer les passagers, faire en sorte que ceux qui relèvent véritablement de l'asile soient mieux accueillis et obtiennent leur statut de réfugié plus vite, et faire en sorte que ceux qui n'en relèvent pas soient raccompagnés dans la dignité dans leur pays d'origine, là aussi plus vite, parce que c'est vrai que l'Italie, depuis plusieurs années, a vu s'accumuler énormément de gens qui ont été déboutés du droit d'asile et dont un certain nombre sont partis ailleurs en Europe. On le sait, alors, une partie de la crise d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, en termes techniques absurdes, les mouvements secondaires, c'est-à-dire des gens qui se sont enregistrés quelque part et puis qui vont ailleurs en Europe. C'est ça qui crée des tensions aujourd'hui, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à traiter dans la dignité, dans le respect du droit des personnes.
Alors la proposition dont vous parlez, ce sont précisément des centres fermés qui seraient installés en Italie, en Grèce, en Espagne, et vous avez entendu la réaction immédiate de l'Italie, on se fiche de nous, ça ne marchera pas. Alors comment est-ce qu'on dépasse cette crise-là ?
La question que je pose, c'est est-ce que nos partenaires, notamment italiens, veulent trouver des solutions ou veulent simplement envenimer des problèmes ? Des centres fermés, il y en a en Grèce, il y en a depuis 2015. Ils fonctionnent, ça a d'ailleurs permis de faire des relocalisations de demandeurs d'asile, de personnes en besoin manifeste de protection, vers la France et vers le reste de l'Europe. C'est ce que nous proposons pour l'Italie. C'est
L'Italie ne veut pas l'entendre parler.
On va voir cet
après-midi. On a entendu le président de la République proposer...
On va voir ce que dit le président
du Conseil. D'ores et déjà, l'Italie a refusé l'idée.
Monsieur Salvini s'est exprimé. Ce n'est pas Monsieur Salvini qui est le président du Conseil.
Non, il est vice-président et il est ministre de l'Intérieur. Et il est quand même un membre important de la majorité qui dirige l'Italie.
Moi, je serais intéressée de nous dire quelle est la proposition faisable, respectueuse du droit et respectueuse des personnes qu'il met sur la table pour régler cette situation.
On est dans une stratégie de confrontation là, entre la France et l'Italie.
Non, ce n'est pas de la confrontation. C'est qu'on cherche une solution. On la cherche avec sincérité. On est prêt à y mettre des moyens beaucoup plus consistants qu'aujourd'hui, notamment pour le contrôle des frontières extérieures. La Commission européenne a proposé que l'agence européenne qui est en charge du contrôle des frontières extérieures, qui pour le moment est embryonnaire, il faut le dire, c'est 1300 personnes aujourd'hui. Elle a proposé que cette agence passe à 10 000 hommes et que ses missions soient renforcées. C'est une proposition que nous soutenons.
Mais je reviens sur la stratégie. On sent bien quand même qu'il y a une escalade dans les mots, dans le rapport entre Macron et Salvini, Emmanuel Macron et Matteo Salvini, alors par pays interposé. Mais le ton monte en permanence. Donc de la part d'Emmanuel Macron, de la part de la France,
de la part du leader de la Ligue, il y a une habitude qui a été prise pendant la campagne électorale et qui se poursuit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que M. Salvini s'exprime encore sur une estrade.
On ne voit pas pourquoi il changerait d'un autre côté.
Oui, il est au pouvoir.
Parce qu'il est en responsabilité.
Oui, mais justement, il y a justement une solution alternative qui met en valeur, c'est de dire finalement, il faut faire, entre guillemets, l'horrible mot, le tri des migrants au moment où ils partent et non pas au moment où ils arrivent. C'est-à-dire qu'au fond, ils veulent délocaliser ces centres fermés que vous voulez installer, vous, en Europe. Pourquoi vous refusez-vous ?
Alors, nous ne refusons pas, puisque depuis l'année dernière, nous avons proposé et mis en place un système qui fait que l'OFPRA se rend régulièrement au Niger et au Tchad pour interviewer des candidats à la migration. Ceux qui relèvent de l'asile, non seulement nous leur disons, mais nous les réinstallons directement en Europe en leur évitant le calvaire de la traversée de la Libye et le calvaire de la traversée de la Méditerranée. Ceux qui ne relèvent pas de l'asile, nous leur disons aussi, nous leur expliquons les risques qu'ils prendraient s'ils prenaient la route malgré tout, c'est-à-dire les risques de la Libye que l'on connaît, les risques de la Méditerranée que l'on connaît, et le fait qu'arrivés en Europe, ils ne se verraient pas attribuer le statut de réfugiés. Nous leur expliquons aussi ce que font les réseaux de passeurs, comment ils se font exploiter par ces réseaux de passeurs, et l'Organisme international des migrations propose de les raccompagner de manière volontaire dans leur pays d'origine. Nous le faisons depuis l'année dernière. Nous incitons vivement nos partenaires européens à nous accompagner dans cette démarche.
Inciter, mais vous ne pouvez pas contraindre. Le président de la République a proposé de sanctionner les pays qui refuseraient d'accueillir les réfugiés. Les États européens, le bloc de l'Europe de l'Est n'en veulent pas. L'Italie n'en veut pas. Comment imaginer que les Européens puissent s'accorder sur une politique commune de l'asile, de l'immigration, de l'accueil partagé, Nathalie Loiseau ?
Parce que c'est l'intérêt de tous. Par exemple, nous sommes en train de préparer le prochain budget pour l'Union européenne.
On va y venir, mais continuons sur l'immigration.
À l'intérieur de ce budget, nous avons proposé que les collectivités locales, les municipalités qui accueillent des migrants reçoivent des fonds européens. Ceux qui auront fait le choix depuis plusieurs années de n'accueillir personne n'auront pas ces fonds. C'est leur choix.
Ça représente combien ?
C'est souverain.
Quel montant ?
C'est ce dont on va discuter entre pays européens. C'est leur choix souverain, mais il doit avoir des conséquences. Pour le reste, il n'y a pas de réponse qui puisse être une réponse nationale. L'idée consistant à dire que le plus simple, c'est de fermer les frontières intérieures à l'Union européenne, c'est un risque qu'on est en train de courir. C'est un risque que l'Allemagne fait courir en disant on va renvoyer tout le monde et si ça se trouve, on peut fermer les frontières aussi.
Les pays de l'Est
sont très attachés à la libre circulation des personnes. Discutons ensemble de l'intérêt de ne pas détruire l'espace Schengen. Ce que nous disons, c'est renforcer le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne.
Est-ce qu'il n'y a pas, et c'est l'un des titres du journal du dimanche aujourd'hui, un grand malentendu à propos de l'immigration concernant le camp d'Emmanuel Macron ? Le candidat Emmanuel Macron applaudissait Angela Merkel pendant la campagne quand elle accueillait des centaines de milliers de réfugiés en Allemagne. Le président Emmanuel Macron, lui, a fait voter une loi dure, la loi asile et immigration. Où est passé le discours du candidat, Nathalie Loiseau ?
C'est la loi asile et migration qui est en discussion au Sénat aujourd'hui est précisément en ligne avec le discours du candidat Emmanuel Macron. S'agissant des réfugiés, là encore, les personnes qui fuient la guerre, qui fuient la persécution, nous devons mieux les accueillir. Le projet de loi propose d'accélérer les procédures. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui un demandeur d'asile syrien doive attendre 14 mois pour obtenir son statut de réfugié. Il se trouve qu'à titre personnel, je m'occupe de réfugiés syriens. C'est une question que je connais pour des raisons politiques, mais aussi parce que j'ai un engagement personnel sur ces questions-là.
Mais vous comprenez que beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron se sentent mal à l'aise, soient même choqués aujourd'hui par la politique de votre gouvernement ?
Écoutez, je fais le tour de France en ce moment parce que nous faisons des consultations citoyennes sur l'Europe. Je suis dans tous les coins de l'Hexagone toute la semaine. Je rencontre beaucoup d'électeurs, qu'ils soient d'Emmanuel Macron ou d'autres, qui comprennent parfaitement qu'on fasse la différence entre un accueil plus généreux, plus digne, mieux organisé pour ceux qui relèvent de la protection, mais qu'on ne puisse pas prétendre que n'importe quel migrant économique illégal doit être accueilli sans condition en Europe. Personne ne le souhaite, personne ne le demande.
Un tournant, parce que pour faire référence à ce que disait Ali tout à l'heure, c'était en juillet 2017, Emmanuel Macron disait que Madame Merkel, en envisageant même 800 000 ou 1 million de personnes, sauvait la dignité de l'Europe. Est-ce que maintenant on est revenu à quelque chose de pragmatique, qui est de se dire que on prend notre part de la misère du monde, mais pas trop, et qu'il y a un certain nombre, une logique derrière tout ça, ou alors aller comme Manuel Valls qui propose des quotas.
Nathalie Loiseau.
Ça n'est pas du tout la logique que nous avons. J'y reviens. Ce qu'a fait Madame Merkel en 2015, c'était accueillir des gens qui arrivaient de Syrie, d'Irak, qui étaient des gens qui fuyaient la guerre. Et ça, nous le soutenons, nous le défendons. Nous sommes favorables à une solidarité européenne. Et il y a en France, je le disais, il y a eu jusqu'à 100 000 demandes d'asile l'année dernière. Toutes ne seront pas satisfaites, loin de là, parce qu'il y a aujourd'hui un dysfonctionnement, un détournement de la procédure d'asile. Les passeurs, les trafiquants d'êtres humains amènent en Europe des gens qui ne relèvent absolument pas de la fuite de persécution ou de la fuite d'un pays en guerre. Et ils leur disent, demandez l'asile, vous êtes tranquille pendant un an ou deux ou encore davantage, sous prétexte que vous seriez persécuté. Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas soutenable pour nos pays. Il faut être beaucoup plus efficace et beaucoup plus humain en même temps. C'est ce que le projet de loi Asile et Migration s'efforce de faire. C'est ce que nous devons faire au niveau européen. Harmoniser les règles de l'asile. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas les mêmes critères, les mêmes procédures partout en Europe ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une agence?
Ah bah, je vous retourne la question. En l'occurrence, c'est vrai que l'Europe a tellement échoué face à la question de l'immigration et elle est si divisée que quand vous employez le mot coopération, que vous dites harmoniser, on se demande comment. Est-ce que ce ne sont pas des mots vides de sens pour le coup?
Non, on y travaille et il y a d'ailleurs une grande partie de ces sujets qui ont progressé. Ce qui reste aujourd'hui, c'est le fameux règlement de Dublin. C'est la question de savoir qui est responsable quand quelqu'un arrive sur le sol européen et ensuite ce que font les autres en matière de solidarité. La responsabilité, elle doit rester au premier pays d'entrée, quel qu'il soit.
Donc il faut continuer mais il doit à appliquer le règlement de Dublin, il faut pas le remettre en cause.
Il faut le faire évoluer, il faut que la solidarité soit beaucoup, beaucoup plus forte, qu'elle s'exerce
financièrement
et en termes d'expertise. Quand il y a des arrivées massives, c'est-à-dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais admettons que nous ayons demain un nouveau flux massif, il faut qu'il y ait immédiatement une présence européenne sur le sol des pays de première entrée, massive, efficace, et que qu'on ne dise pas à la Grèce, à l'Italie, à l'Espagne, débrouillez-vous tout seul.
Et pourtant, c'est ce qui se passe avec le système de Dublin. Mais on va y venir juste d'un mot pour que tous ceux qui nous écoutent le comprennent. Un réfugié entré sur le territoire européen par l'Italie, par exemple, et qui a continué sa route jusqu'en France, ne peut pas demander l'asile en France.
Non.
Et s'il va en préfecture, en France, on va automatiquement le placer en procédure Dublin. On va le renvoyer en Italie. Cette personne-là, ce réfugié, est ce qu'on appelle dubliné. Mm-hmm. Voilà.
Donc
c'est une situation un peu folle.
Donc on comprend que Matteo Salvini s'agite et essaye de trouver une solution pour son pays.
Parce et que c'est ça pour veut ça dire qu'on systématiquement que l'Europe soit beaucoup plus présente dans son pays. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est l'intérêt de tous que l'Europe soit efficace, organisée, coordonnée, pour que ceux qui puissent, qui ont vraiment vocation à bénéficier de l'asile soit beaucoup plus rapidement enregistrée, interviewée et qu'on les prenne, qu'on les répartisse à travers l'Union européenne sur une base volontaire. Il y a des pays qui ne voudront jamais. Je le regrette, je suis en désaccord avec eux, mais on ne forcera pas un pays à prendre quelqu'un s'il ne veut pas le prendre.
Donc on fait sans eux.
Mais nous on le fera.
Et on les sanctionne.
En tout cas, il y a des financements européens qui iront
pour ceux qui sont financièrement, c'est-à-dire on le...
Il y a des financements européens qui iront pour ceux qui font des efforts et pas pour ceux qui n'en font pas. Ça paraît cohérent.
Françoise.
Alors, ce tri entre les réfugiés et les autres migrants a quand même choqué tous ceux qui, notamment les catholiques, qui estiment que la France a un besoin et un devoir d'accueil. Demain, Emmanuel Macron se rend au Vatican. Il va rencontrer le pape François. Est-ce que vous craignez une réprimande?
Nathalie Loiseau.
Écoutez, d'abord, c'est... Tous les chefs d'État et de gouvernement se sont rendus au Vatican et ont rencontré les papes successifs. Je m'étais moi-même rendue au Vatican il y a quelques mois et j'avais dit au pape François que le président de la République souhaitait le rencontrer. Ça sera une rencontre certainement passionnante, avec une personnalité rayonnante. Je crois que c'est très important qu'il se parle, qu'il s'explique et qu'il se comprenne.
Mais qui va quand même dire que l'Europe n'y arrive pas face à un défi qui est quand même à la fois humanitaire et démographique. L'Europe est complètement divisée et elle n'y arrive pas.
Mais il y a une vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le développement de l'Afrique? Est-ce qu'on pense naturel? Est-ce qu'on vit comme une fatalité que les plus jeunes, les plus dynamiques et les plus courageux fuient l'Afrique parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'y ont pas d'avenir pour eux et pour leur famille? Est-ce qu'on considère que la solution, la réponse, c'est l'accueil en Europe où on sait qu'on n'est pas capable d'intégrer et d'accueillir tout le monde? Ou est-ce que la solution, c'est de travailler au développement de l'Afrique en étant beaucoup plus déterminé, en y mettant beaucoup plus de moyens, en étant beaucoup mieux coordonné entre pays européens et avec les pays d'origine des migrations? Moi, je suis convaincue que aujourd'hui en Afrique, vous avez de la croissance et souvent, vous n'avez pas de développement. Ça n'est pas une fatalité. L'avenir de l'Afrique, il est lié au nôtre. Soit l'Afrique réussit et nous réussirons avec elle, soit elle est fragile et nous serons fragiles aussi.
On ne parle pas justement beaucoup de ce qu'essaie de faire, par exemple, Jean-Yves Le Drian, avec la Libye, en essayant de faire du bilatéral pour essayer de bloquer les mouvements. C'est quelque chose que vous ne mettez pas tellement en avant.
Alors, on travaille surtout à la stabilisation de la Libye. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'État en Libye. Et on ne peut pas espérer le respect des droits de l'homme, on ne peut pas espérer lutter contre les passeurs, on ne peut pas espérer renforcer aussi l'action des gardes-côtes dans un pays qui n'y a pas d'État. Et donc, depuis plusieurs années, la Libye souffre considérablement et la région souffre de l'absence d'État en Libye. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, a reçu les protagonistes politiques libyens pour les engager à trouver une solution politique et à restaurer un État digne de ce nom.
Encore une question, Karine, sur le sujet.
En tout cas, ce qu'on perçoit avec cette crise migratoire au sein de l'Union européenne, c'est cette crise de valeurs. On a l'impression que tous ces pays ne partagent plus aujourd'hui les mêmes valeurs qu'ont cimenté au départ cette Union européenne, qu'ont cimenté cette Europe. Est-ce qu'il est encore possible, finalement, quand on voit ce qu'on voit, que tous ces pays réussissent à vivre encore ensemble?
C'est indispensable. L'Europe, ça n'est pas
indispensable, mais est-ce que c'est possible?
Et en tout cas, c'est là-dessus que nous travaillons. Il est hors de question, parce qu'on est face à une crise politique, de laisser nos valeurs de côté. Il est hors de question de se laisser dicter notre agenda par des populistes.
On va reconstituer quelque chose avec des pays qui partagent encore les mêmes valeurs que nous et on laisse tomber les autres. C'est pas possible, ça.
Nathalie Loiseau.
Écoutez, la vérité, c'est que les citoyens de l'ensemble des pays européens partagent les mêmes valeurs. Que certains gouvernements, que certains partis...
Vous en êtes
que
sûr certains...
Vous pensez vraiment que les Hongrois ne partagent pas les idées du président ou du Premier ministre, pardon?
Écoutez, c'est une vraie question, et c'est une question qui se pose en ce moment, au travers de ce processus que nous avons lancé, les consultations citoyennes sur l'Europe. Il y a des débats partout dans l'Union européenne, auprès de 450 millions de gens. Il y a un questionnaire en ligne où vous pouvez répondre, même si dans votre pays, ces débats-là ne sont pas organisés ou pas comme vous le souhaitez. Et ce que nous allons regarder, c'est la nature des réponses. Quand vous regardez, par exemple... Quand vous demandez à des Polonais s'ils sont favorables à l'Union européenne, ils répondent oui à 80%.
La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, est notre invitée ce dimanche.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
C'est la tradition, Nathalie Loiseau, et une vie politique reste incomplète tant qu'on n'a pas eu droit à son portrait par Karine Bécard. Voici le vôtre.
Quel hommage, merci. Nathalie Loiseau, quand vous apparaissez sur les bancs de l'Assemblée, à l'heure des questions au gouvernement, les fameuses QAG, vous ressemblez, si vous me le permettez, à une enfant raisonnable, discrète, attentive, qui répond, quand c'est à elle de parler, de manière étayée, même s'il vous est arrivé déjà une fois de déraper. Maintenant, ce qui est amusant, Nathalie Loiseau, c'est qu'en réalité, vous êtes, comme assez souvent les jupéistes, plutôt sarcastiques. Vous avez l'air d'aimer la politique, ce qui est loin d'être le cas de tous nos ministres. Et puis vous êtes aussi, vous, la diplomate, issue de ce corps on ne peut plus phallocrate, vous êtes, Nathalie Loiseau, délibérément féministe. Pourtant, reconnaissez que ce sont souvent des hommes qui vous ont repéré et qui ont décidé de vous soutenir, voire de vous porter. Le premier à l'avoir fait, cela a été votre frère, sans qui jamais vous n'auriez été inscrite à 16 ans seulement à Paris à Sciences Politiques. Ensuite, vous faites les longues eaux et vous choisissez la voie diplomatique. Ce qui nous mène à Alain Juppé, deuxième homme à avoir beaucoup compté. Pourquoi? Parce qu'à 29 ans, vous devenez sa conseillère au Quai d'Orsay et parce qu'à 47, il vous offre la direction de toute cette administration. Peu de femmes, Nathalie Loiseau, dans ce ministère des Affaires étrangères, avaient réussi jusqu'ici à se faufiler aussi haut. Cela dit, l'aventure n'aura pas duré très longtemps, à peine un an. La jupéiste est virée en 2012 par les socialistes qui l'envoient prendre la tête d'une école que vous ne connaissiez pas, l'ENA. Et puis il y a un dernier homme qui vous a pas mal aidé, qui lui aussi a contribué à vous propulser, c'est Jean-David Lévite, ambassadeur à l'époque à Washington, qui vous nomme porte-parole peu de temps avant que Jacques Chirac ne dise non à la guerre en Irak. Évidemment, cela a secoué, vous avez plutôt bien résisté, vous avez même osé riposter. Alors, serez-vous aussi solide, aussi robuste sur les enjeux européens? Pour l'instant, c'est surtout Emmanuel Macron que l'on entend, mais vous, Nathalie Loiseau, pas tellement.
Réaction, Nathalie Loiseau?
C'est parfaitement normal qu'on entende Emmanuel Macron. Il a fait la campagne la plus pro-européenne qu'un candidat au présidentiel pouvait faire. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai rejoint.
Mais ça doit être difficile d'exister à côté de lui, du coup.
Écoutez, c'est pas la question. C'est formidable d'avoir un président pro-européen. Et c'est des sujets régaliens, donc c'est normal qu'il les porte en première ligne. Moi, je suis là pour préparer, accompagner, faire marcher, faire accepter les propositions européennes d'Emmanuel Macron par les autres Européens.
C'est pas évident. Bon courage pour le faire quand on voit les divisions entre les différents membres de l'Union.
Il y a
l'Union.
Beaucoup de choses qui sont passées depuis un an et qui ont fait avancer l'agenda.
Et alors justement, parlons-en, parce que cette semaine, un moment important avait lieu mardi dernier. Un accord était conclu entre la France et l'Allemagne, entre Emmanuel Macron et Angela Merkel pour une réforme de la zone euro, l'instauration d'un budget de la zone euro. Et c'est une première. C'est un bon début ou est-ce qu'on se dit c'est dérisoire? Quel montant pour le budget de la zone euro?
D'abord, c'est une évolution majeure de l'Allemagne. Souvenez-vous, vous l'avez tous lu, parfois vous l'avez dit, jamais Angela Merkel ne voudra d'un budget de la zone euro. On s'est beaucoup parlé, on a beaucoup travaillé en franco-allemand pendant des mois, et aujourd'hui on fait le même constat, c'est-à-dire que on a surmonté la précédente crise de la zone euro. Vous savez que dans quelques semaines, la Grèce va sortir du plan d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on a réussi. Mais on sait aussi tout ce qui manque. On sait que la zone euro n'est pas encore assez solide pour pouvoir affronter la prochaine crise. Le constat, on le partage, et on partage surtout les instruments pour renforcer cette zone euro, la nécessité d'un budget. En franco-allemand, on s'est mis d'accord là-dessus. Maintenant, on va discuter avec le reste des pays de la zone euro. Il faut un accord franco-allemand pour démarrer.
Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que ça, le budget va véritablement exister ou est-ce qu'il ne va pas y avoir des oppositions à l'intérieur même de l'Allemagne, puisqu'on entend par exemple la CSU dire qu'elle a trop cédé à la France, ça ne peut pas marcher.
Et Angela Merkel doit encore faire valider ça en Allemagne. C'est vrai qu'ils ne vivent pas sous le régime de la monarchie présidentielle comme en France. Donc Angela Merkel peut dire quelque chose et malgré tout devoir convaincre ensuite ses partenaires et les institutions allemandes.
Non, Angela Merkel est le chef du gouvernement allemand, et il se passe en ce moment en Allemagne quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'un parti qui est membre de la coalition au gouvernement, qui a signé un contrat de coalition, remet en cause des décisions qui sont prises par la chancelière.
La CSU.
C'est la CSU, c'est une situation particulière, peu enviable,
donc
et dont on espère qu'elle n'est pas durable. Mais en tout cas, il y a une chancelière. À Meseberg, il y avait des ministres autour de la table, dont des ministres CSU. Ils n'ont pas été pris par surprise, ils le savent. C'est un positionnement politique, c'est de la politique intérieure. Je n'ai pas commenté ce qui se passe chez mon voisin.
Un positionnement politique qui mine profondément la chancelière. En fait, tout le pari d'Emmanuel Macron, c'était de faire un mano à mano avec l'Allemagne et d'essayer de faire bouger l'Europe. Et il découvre une Allemagne qui est au fond rongée de l'intérieur par la CSU, par l'extrême droite. Est-ce que vous pensez que la chancelière a les moyens de sa politique?
Nathalie Loiseau.
L'Europe n'avance que quand la France et l'Allemagne se mettent d'accord sur un projet et qu'ensuite il est adopté par les autres. C'est bien pour ça que depuis un an, la France et l'Allemagne travaillent énormément ensemble. On a fait avancer l'Europe de la défense. Pendant 60 ans, on en avait parlé. Depuis 6 mois, on l'a fait pour de bon. On est en train de faire avancer l'Europe de l'innovation. On va créer un fonds pour financer l'innovation majeure, l'innovation de rupture. C'est parce que la France et l'Allemagne se sont mises d'accord qu'on est en train d'y arriver. On est en train de rapprocher les bases fiscales de l'impôt sur les sociétés entre la France et l'Allemagne. Il se passe énormément de choses entre la France et l'Allemagne. Alors après, il se passe une vie politique allemande mouvementée, sur laquelle je ne veux pas faire plus de commentaires, parce que quand on a un allié et un partenaire, on ne se met pas à juger ce qui lui arrive. On souhaite le succès d'Angela Merkel, parce que l'Allemagne en a besoin, l'Europe en a besoin.
Mais attendez, vous parlez de position politique particulière, vie politique mouvementée. Alors si on se résume, c'est mouvementé en Pologne, en Hongrie, en Tchéquie, en Italie, en Allemagne, c'est-à-dire que c'est la moitié de l'Europe qui est mouvementée.
Oui.
Est-ce que vous avez de l'espoir pour le 28 et le 29? Est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir ou alors qu'il faut acter qu'il y a une fracture entre un groupe de personnes qui veulent aller de l'avant et d'autres qui, à cause de leur vie politique mouvementée, j'ai l'impression que c'est un euphémisme, ne pourront pas suivre?
Nathalie Loiseau.
Il y a un constat commun, c'est qu'on n'a jamais eu autant besoin d'Europe. Face à Trump, face à l'imposition de tarifs douaniers sur l'acier, sur l'aluminium, soit aux menaces sur l'industrie automobile, face à une Russie qui n'aime pas l'Europe, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que tous nos partenaires appellent à l'unité de l'Union européenne et que on prend des positions unies, on est d'accord sur un grand nombre de sujets. Pas sur tout.
Ça, c'est votre
On a parlé pendant une demi-heure de l'immigration, où pour le coup, les divisions sont tellement profondes.
Et moi, je vous
sur
parle.
Un sujet absolument majeur.
Je vous parle du commerce.
Eh ben, parlons justement
Le 28,
de la
le 29,
fiscalité, par exemple, où
le 28,
il n'y a pas
le 29, Conseil européen, est-ce que ça peut échouer? Ou est-ce qu'on sortira de toute façon, éventuellement, avec des solutions, avec deux groupes distincts? Est-ce que ça peut se permettre de...
Vous savez, deux groupes distincts, je ne suis pas sûre que ça existe. Parce que, revenons aux migrations, puisque c'est effectivement un sujet brûlant, vous entendez ce que j'appellerais pas des hommes forts, j'appellerais ça des hommes qui parlent fort, qui vous disent que, par exemple, ils veulent renvoyer les demandeurs d'asile qui auraient été enregistrés dans un autre pays. C'est ce que certains disent en Allemagne. Immédiatement, vous entendez M. Salvini dire il est hors de question que l'Allemagne renvoie vers l'Italie des gens qui ont été enregistrés en Italie. C'est-à-dire que ceux qui avaient, de manière très malencontreuse, parlé d'un axe Rome-Berlin,
C'est déjà un peu cassé la figure.
Il prouve qu'ils avaient la mémoire historique assez courte. Cet axe n'existe pas. Vous avez
parce qu'il n'y a pas de solidarité.
Vous avez l'Italie qui demande de la solidarité et qui dit, et on nous dit par ailleurs que l'Italie est d'accord avec le groupe de Visegrad qui refuse la solidarité. Il n'y a pas de bloc. Il y a des positions nationales alors qu'il n'y a qu'une réponse européenne. Faisons chacun un effort, allons les uns vers les autres et trouvons une solution qui fait ce que nos compatriotes, nos concitoyens n'aient pas le sentiment qu'on se renvoie la balle, mais qu'on apporte une vraie réponse à ces questions.
Encore quelques questions sur l'Europe et j'aimerais qu'on arrive en France. Françoise Fressoz.
Mais vous avez vous-même évoqué l'axe Rome-Berlin pour dire, est-ce que vous ne craignez pas une résurgence de ce qu'on a connu dans les années 30, c'est-à-dire fermeture des frontières, axe de pays autoritaires et la démocratie qui ne parvient pas à sauver ses valeurs?
Alors, vous ne pouvez pas qualifier l'Allemagne de pays autoritaire et la fermeture des frontières, elle serait dans l'intérêt de personne, puisque l'Europe, Schengen, c'est la liberté de circulation à l'intérieur de l'Union européenne et tout le monde y est très attaché. Il y aura de l'agitation, il y aura des effets d'estrade, il y aura des paroles inutiles et puis à la fin, il faudra bien qu'il y ait une solution.
Pour faire le lien entre cette crise migratoire, pour finir, et puis le budget européen, on a le sentiment quand même que, voilà, surtout ce qui porte sur des valeurs, je reviens quand même sur cette idée-là, on a du mal à cheminer ensemble aujourd'hui, on a du mal à avancer, et que finalement, on arrive à peu près à discuter que sur des sujets économiques.
De moins en moins. Regardez la question d'état de droit.
C'est quand même un petit peu le cas, quoi. Enfin, je veux dire, alors que... On a le sentiment que les électeurs européens ont envie d'entendre parler de choses très concrètes, de solutionner des vrais problèmes. Le budget européen, je suis pas sûr que ça soit très concret dans leur tête.
Pendant des années, on a parlé que d'austérité. Maintenant, on parle d'immigration. Ça fait pas rêver, ça.
Non, mais on parle aussi d'innovation, on parle aussi de numérique, on parle aussi de protection de l'environnement, de lutte contre le changement climatique. Il y a des réponses européennes qui sont en train d'être mises en place. Vous en parlez moins. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire au quotidien. On est en train de protéger et défendre la création en Europe avec les droits d'auteur, les droits voisins. On évolue très vite.
Alors,
sur des sujets
d'une phrase
essentiels.
Essayez de nous convaincre, et ceux qui nous écoutent, que l'idée européenne n'est pas en train de s'essouffler, que l'Europe n'est pas en train de mourir.
Aujourd'hui, face à un monde dangereux, on est en train de monter l'Europe de la défense. D'un seul coup, l'Union européenne est en train de mettre en place son autonomie stratégique pour pouvoir décider seule comment elle se défend dans ce monde assez instable.
Est-ce que vous n'avez pas peur des élections européennes ? On a dit tout à l'heure, on en a parlé, sur finalement tout le monde qui se défile. Est-ce que du côté de La République en marche, vous pensez qu'il faut qu'il y ait une personnalité forte juste pour donner envie aux gens ? Et que ce soit pas un taux d'abstention gigantesque et que finalement ce soit toute la fureur qui s'exprime et aucune envie européenne ?
Écoutez, l'année dernière... L'élection présidentielle a montré des Français qui étaient attachés à l'idée européenne. Et quand je fais le tour de France, je rencontre beaucoup de gens qui ont des attentes, qui ont des propositions, qui ont des critiques. Et nous ne sommes pas des Eurobéas. Avoir peur des élections, ce serait être antidémocratique.
Alors, est-ce que vous serez candidate ?
Qui est-ce qui doit mener le combat
pour donner ministre. Et je suis 100% à ma tâche aujourd'hui, au moment où je vous parle.
Vous n'êtes pas tentée par l'épreuve du suffrage universel, aller porter justement ce rêve et cet enthousiasme européen devant les électeurs ?
Écoutez, il ne faut jamais insulter l'avenir. Pour le moment, ce rêve et cet enthousiasme européen, je le porte auprès des Français, puisqu'une partie de mon travail, c'est d'expliquer l'Europe à l'opinion française. C'est ce que je fais, jour après jour. Je fais une trentaine de consultations à travers toute la France.
Il va bien falloir une tête de liste au finish. Il va bien falloir trouver quelqu'un. Alors, on dit qu'on cherche une personnalité de la société civile du côté d'En Marche pour essayer de redonner du souffle. Est-ce que ça doit être Édouard Philippe, vous pensez que ça serait une bonne solution, par exemple ?
Écoutez, je crois que Édouard Philippe est lui aussi 100% à sa tâche de Premier ministre. Ouais. Et vous me posez la question aujourd'hui. On est dans des missions qui sont fortes, dans des actualités qui sont brûlantes. On verra pour demain.
Mais donc, face à cette situation, à ce contexte que vous connaissez bien, est-ce qu'on peut au moins dresser un profil ? Ce serait quoi le bon profil pour La République En Marche pour affronter ces élections européennes
Vous savez, La République En Marche procède pour les élections européennes comme elle l'a fait pour l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'on commence par construire un projet. On a interrogé les militants avec la Grande Marche pour l'Europe. On est en train d'analyser les résultats de ces questionnaires que on a diffusés partout à travers la France pour voir quelles sont les préoccupations, les priorités, les centres d'intérêt.
Mais il faudra un homme ou une femme pour porter ce projet.
Bien sûr, il faudra un homme ou une femme pour porter ce projet, mais il faut d'abord construire le projet. C'est intéressant si vous regardez, par exemple, le dernier Eurobaromètre qui s'interroge sur ce qui préoccupe le plus les Français en matière européenne. En numéro 1, une réponse au terrorisme. En numéro 2, une réponse au chômage des jeunes. Et la question migratoire ne vient qu'en numéro 3.
Et il faudra donc des personnes pour porter ce projet.
Et il en faudra.
Il faudra des énarques. Un énarque?
Vous pensez Madame à qui, l'ancienne
directrice de l'énarque.
Ni oui ni non, ça dépend.
Mais non, mais parce que vous connaissez la phrase, c'est l'énarque qui représente dans notre pays le visage du pouvoir. La phrase est vieille de 50 ans, mais elle est toujours vraie, non, Nathalie Loiseau?
Il n'y a jamais aussi peu d'anciens élèves de l'ENA dans le gouvernement que dans ce gouvernement-ci.
Il y en a quand même deux, et à des postes qui ne sont pas négligeables, le président de la République et le Premier ministre.
Bah oui, mais c'est quand même... dans le gouvernement, vous avez le Premier ministre, le ministre de l'économie et la ministre des armées, point. C'est très peu.
Depuis 50 ans, plus d'un président de la République sur deux était énarque. Plus de 10 premiers ministres sur 18 étaient énarques. C'est assez incroyable, c'est un phénomène qui est assez unique au monde.
Mais... c'est les Français qui les ont élus.
C'est les Français qui les ont élus.
Pas les premiers ministres.
Donc les Français aiment les énarques.
Bah écoutez, ils ont le choix et ils choisissent la personne qui la convient.
Mais ça veut dire que l'énarchie, comme on a appelé ça pour citer le titre d'un livre célèbre, c'est-à-dire le gouvernement de la France par les énarques, ça n'existe pas.
Ça veut dire que l'ENA doit être capable de sélectionner des gens qui ont du talent, puisqu'ensuite ce talent est confirmé par le vote des Français.
Et pourtant les Français sont très dubitatifs, rebelles, critiques vis-à-vis de leurs élites. Donc il y a une forme de paradoxe.
C'est à peu près comme vis-à-vis de l'équipe de France de football. Moi, j'ai eu le sentiment de faire le métier de Didier Deschamps pendant 5 ans, vous savez. Tout le monde avait un avis sur ce que je devais
faire. Attendez la fin de la Coupe du Monde, parce qu'il vaut mieux une équipe de France victorieuse qu'une équipe de France qui n'irait pas jusqu'au bout.
C'est sûr, mais ça n'empêche pas les Français du fond de leur canapé de commenter les matchs de foot comme ils ont commenté l'ENA.
Françoise Fressoze.
Mais quand vous voyez ce qui se passe partout en Europe, est-ce que vous craignez pas justement que ce gouvernement de l'énarchie, ces experts, ne soient pas à un moment renversés parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils ont promis? Est-ce que vous mesurez le risque?
Bah écoutez, moi j'ai l'impression que depuis un an, des résultats on en a, des réformes on en fait, experts ou énarques ou pas énarques d'ailleurs, puisque comme je vous le disais, il n'y en a jamais eu aussi peu.
Vous avez vraiment une autre manière de voir les choses, parce que le président de la République et le Premier ministre, c'est-à-dire vraiment les deux figures de l'exécutif,
mais si vous prenez les gouvernements précédents, vous en aviez infiniment plus. Sur la question des experts, vous préférez des experts ou vous préférez des ignares pour s'occuper des...
Vous voulez dire qu'il y avait des ignares sous François Hollande?
Non, je ne sais pas. Mais
sous Sarko?
Non, mais je ne sais pas, la critique sur le gouvernement d'experts, elle me fait un peu sourire. Est-ce que ce n'est pas rassurant de savoir que...
Non, mais ce qu'il voulait dire, c'est pas des experts, c'est des gens qui font de la politique, c'est des gens qui ont du charisme, des gens qui donnent envie, c'est-à-dire pas simplement des gens qui font un diagnostic, c'est ça.
Mais est-ce que les deux sont forcément antagonistes?
Bah, pour l'instant, on n'a pas eu l'impression que ça allait ensemble. Mais
je ne sais pas, Jean-Michel Blanquer, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a du charisme?
Vous avez peut-être trouvé l'expression, l'exception qui confirme la règle.
Ah bah c'est votre point de vue, mais moi j'en ai d'autres.
Emmanuel Macron, président des riches, l'étiquette elle est revenue dans l'actualité cette semaine, collée pour le coup par un ultra riche, François Pinault, dans M, le magazine du Monde, le milliardaire français qui disait « Macron ne comprend pas les petites gens, j'ai peur qu'il mène la France vers un système qui oublie les plus modestes ». Est-ce que vous comprenez ce reproche qui revient régulièrement fait au président de la République, Nathalie Loiseau?
J'aime pas le terme « petites gens » et j'aime pas les petites phrases. Mais je sais que M. Pinault l'a regretté, il l'a dit.
Mais les petites phrases, elles sont souvent prononcées par Emmanuel Macron lui-même. On en a eu notre lot, entre le jour où il s'exprimait à Montpellier, où il y a eu cette fameuse vidéo.
Pognon de dingue.
Donc les petites phrases, ce n'est pas les journalistes qui les inventent. Est-ce que c'est souhaitable?
Je ne dis pas que vous les inventez, je dis que vous en faites votre miel.
Écoutez, quand on prend une vidéo sur Twitter à 1h30 du matin, franchement, on n'était pas absolument demandeur.
Vous savez, vous êtes peut-être en burn-out comme certains...
Non, pas du tout.
Ah non, nous, on est en très grande forme, justement.
Est-ce que malgré tout, il n'y a pas une contradiction, Karine, flagrante où Emmanuel Macron demande aux journalistes gentiment de s'intéresser au fond, ouais, de ce qu'il fait, nous promet un grand discours devant effectivement le congrès de la mutualité, ou plutôt la mutualité réunie en congrès. Et effectivement, quelques heures avant ce congrès, où nous, on s'était préparés, on avait potassé un peu nos sujets de santé, il nous sort effectivement cette petite vidéo qui fait à peine une minute, où il nous sort pognon de dingue. Résultat, on n'a parlé plus que de ça. Et on a eu beau se déplacer à ce grand discours, on n'en a quasiment pas parlé. Donc, quel est...
C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une focalisation sur une phrase par-ci, une phrase par-là.
Non, mais là, il en a joué. Là, il l'a fait. Il l'a créé.
Vous l'avez exploité.
Mais enfin,
il y a un sujet, c'est que aujourd'hui, on ne sait mesurer une politique que à l'argent qu'on y met et pas aux résultats qu'elle atteint.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de populisme,
ce sont aussi des symboles,
de populisme d'État dans ce type d'expression? C'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'à la limite, qu'on considère que le pays est trop assisté entre guillemets, c'est un débat qu'on peut avoir. Mais un pognon de dingue pour les pauvres, est-ce bien nécessaire de parler comme ça?
Est-ce que vous ne lui reprocheriez pas l'inverse, c'est de parler comme un techno ou comme un expert?
Ah, mais on ne reproche rien à personne.
C'est un moyen terme.
Mais avouez malgré tout que la politique, ce sont des symboles, et que quand on entend parler du changement de vaisselle à l'Élysée, d'un projet de piscine au fort de Brégançon, ces symboles-là, ils parlent à beaucoup de gens, que vous le vouliez ou non. Les journalistes ont leur part de responsabilité, mais la politique, c'est aussi faire attention à des symboles. Est-ce que ceux-là sont malheureux, par exemple?
Et quand on augmente le minimum vieillesse, et quand on augmente l'allocation pour adultes handicapés, là aussi, c'est des symboles, et c'est plus que des symboles, c'est la vie quotidienne des gens, et c'est ça que ça change.
Bien sûr.
Bah oui.
Mais donc,
c'est ça qui compte.
Bien sûr.
C'est ce qu'on fait.
Mais dans
c'est
ces cas-là,
actes.
Ceux qui s'indignent du changement de vaisselle à l'Élysée ou du projet de piscine
aussi.
À Brégançon,
c'est
ça
fait.
Existe aussi.
Voilà, c'est fait aussi.
Bah écoutez, le changement de vaisselle, à quoi ça sert l'Élysée? C'est une vitrine, c'est un navire amiral pour les milliers de personnes qui y sont reçues chaque année. C'est la vitrine de notre artisanat, de nos artistes, de nos manufactures, et il est normal qu'on fasse en sorte qu'on montre le meilleur de ce dont la France est capable.
La vaisselle, c'est facile. La piscine?
La piscine, ça coûte moins cher que d'avoir de bateaux en face de Brégançon. C'est des économies.
Ah, c'est pas mal comme argument, j'y avais pas pensé.
On peut aussi dire
que le président de la République est une vitrine et qu'il a besoin de bronzer et d'être le plus présentable possible devant les Français.
Bah écoutez, vous ne pouvez pas le interdire de prendre des vacances, en tout cas.
Françoise Fressoze.
Revenons sur la critique de fond de François Pinault, le président des riches. Est-ce que vous ne craignez pas, en rapport avec votre ministère, que l'idée que font les classes moyennes n'auraient pas leur comptant, notamment au niveau du pouvoir d'achat, est-ce que c'est pas un risque pour l'Europe? Parce qu'on voit bien que les eurosceptiques, c'est dans ces milieux, c'est-à-dire les classes populaires, les classes moyennes qui se sentent pas du tout tirées par l'Europe. Alors comment est-ce que vous résolvez ce problème et est-ce que vous alertez le président de la République?
Nathalie Loiseau.
La réalité sur l'Europe et les classes moyennes, c'est la peur de la mondialisation. La question qui s'est beaucoup posée depuis des années, ça a été de savoir si l'Europe, c'était le cheval de Troie de la mondialisation et donc des délocalisations et donc des pertes d'emplois, ou si c'était la capacité à protéger, à maîtriser la mondialisation. Nous, nous voulons une Europe qui ne soit pas naïve. Nous voulons qu'en matière commerciale, on défende nos intérêts, comme on les défend face à Trump, par exemple. Nous voulons une Europe qui obtienne des marchés à l'extérieur et qui ne fasse des concessions que quand elles sont réciproques. Nous sommes attentifs aussi au type d'investissements qui viennent de partenaires qui ne sont pas européens. Tout ça, nous sommes en train de l'obtenir. On n'est pas des Eurobéas. On n'est pas dans un espèce de libre-échangisme consistant à dire le marché, le marché, le marché. Aujourd'hui, on s'organise. On est en train de travailler à une politique industrielle européenne. La réalité, et là encore, en faisant le tour de France aujourd'hui, c'est qu'on recrée des emplois dans l'industrie. Aujourd'hui, je rencontre des chefs d'entreprise qui sont en recherche de main-d'œuvre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met le paquet sur la formation, sur l'apprentissage. C'est quand même un paradoxe qu'aujourd'hui, on ait autant de jeunes au chômage et qu'il y ait autant d'entreprises, notamment industrielles, qui recherchent des employés.
Il nous reste très peu de temps, Karine.
Alors justement, très peu de temps. Est-ce que vous vous préparez à votre bilan de compétences, à votre... Oui, je crois qu'on doit appeler ça comme ça, bilan de compétences, que vous allez passer devant Emmanuel Macron, le président manager qui veut s'assurer que...
Devant Edouard Philippe, en réalité.
Édouard Philippe.
Oui, oui, oui.
Ça aura lieu quand, vous savez? Les dates sont déjà données.
En juillet, on va faire le bilan d'un an, la feuille de route, où est-ce qu'on en est, ce qu'on a fait.
Et vous préparez un remaniement ou pas, alors?
Écoutez, en général, les ministres sont les derniers alertés et avertis. Moi, je suis à la tâche.
Vous le redoutez ou pas?
Je suis là pour servir un projet présidentiel. Je le fais avec enthousiasme, avec conviction. Si on me demande de servir ailleurs, je le ferai. Mais pour le moment, je crois que j'ai pas mal à faire.
Merci infiniment, Nathalie Loiseau, d'avoir été notre invitée. Bon dimanche. Merci à vous, les amis. C'était la dernière émission de la saison et je vous dis à la rentrée avec bonheur. Merci à Alexandre Gilardi. Dimanche prochain, France Inter vous donne rendez-vous dès 11h pour une émission spéciale pour célébrer l'entrée de Simone Veil au Panthéon. Et à ne pas manquer aussi, juste après le journal, dans quelques minutes, le grand face-à-face de France Inter. À tout de suite.